Vous êtes sur RTL. Ils auraient préféré être en terrasse à siroter un diabolo fraise. Mais ils sont en direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine, pour On défait le monde sur RTL. Voici Céline Landreau, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugénie, ouais, Caranoni et Cyprien Sini.
Allez, mais c'est le générique le plus long.
Qui a validé cette production? On ne sait pas, c'est Greg.
J'ai fait une auto-validation.
D'accord. C'est parti pour le numéro 39, bien sûr, l'actualité traité avec rigueur et bonne humeur avec toute l'équipe, c'est sur RTL et c'est nulle part ailleurs. Nous sommes le vendredi 5 juin de cette année 2020, c'est parti jusqu'à 20h. Vous allez apprendre plein de choses avec toute l'équipe. Vous commentez en direct, en live sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, le compte Twitter à disposition. C'est parti Cyprien, voici le sommaire.
Retour vers le passé pour comprendre comment les États-Unis se retrouvent aujourd'hui dans l'une des plus grandes crises sociétales de leur histoire. Distance physique, masque et gel hydroalcoolique. Et si le coronavirus mettait définitivement fin au tourisme de masse, ce sera l'enquête dont défait le monde. Évidemment, comme tous les vendredis, vous retrouverez le loser de la semaine, le grand perdant de Céline Landreau, qui ce soir s'offre un duo.
Patrick et Isabelle, les Balkany, seuls contre tous, parfois même à Levallois.
Dans votre billet retour, Brice, en décembre dernier, n'en parlait que de ça, et depuis on l'aurait presque oublié, vous nous faites un petit point Brexit.
Oui, Boris Johnson est guéri, mais le Brexit est toujours malade.
Dans On défait le monde, bien sûr, je sais que vous y tenez, vos trois infos pour briller au dîner, votre belle histoire de la semaine dans l'instant trop mignon, le palmarès de vos appels au 3210 dans le Prodomètre, et comme tous les vendredis, un cadeau ce soir. C'est un énorme coffret divers et variés de chocolat à garder pour soi ou à offrir pour la fête des mères si vous avez oublié d'acheter un cadeau. Bref, le jeu, ce sera comme d'hab vers 19h40. On défait le monde, épisode 39, avec toute l'équipe enfin déconfinée. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Des chocolats divers et variés, c'est des friandises quoi.
Ouais, il y a des caramels, il y a des tuiles.
Divers et variés, ça se dit plus depuis 74.
Ouais, mais c'est... Je crois bien. Il surfe tous les matins de la semaine du lundi au vendredi à 7h-20. Pour être tout à fait précis, juste avant 8h, aux côtés de Yves Calvi. Cyprien Sini, le surfeur, le vendredi soir aussi, les temps forts sonores de ces derniers jours.
Et cette semaine, un hommage à l'une des révélations de ce confinement. Celui qu'on pourrait qualifier de ministre des vacances. Vous savez, c'est le monsieur tourisme du gouvernement, Jean-Baptiste Lemoyne, alors que c'est pas trop au début, qui a su sortir de l'ombre à coup de punchline de compète.
Ces vacances, dont j'espère qu'elles seront bleu, blanc, rouge, et je leur dis aux réservations, citoyens.
Aux réservations, citoyens. Mais alors, quand il en tient une, il hésite pas.
C'est un peu l'appel que je lance, c'est aux réservations citoyens.
Il l'a fait à peu près partout, oui c'est bon, on l'a saisi. Puis comme il est polyglotte, il ratisse large aussi.
Moi je travaille d'arrache-pied pour passer le message aux Allemands, aux Néerlandais, aux Belges, aux Espagnols, en leur disant bienvenue en France, willkommen, bienvenido.
Olé ! Dis donc, on se croirait à l'office du tourisme. Rien ne l'arrête, une machine de guerre complètement euphorique à la réouverture des terrasses, Hubert.
C'est déjà une capacité à retrouver les petits plaisirs de la vie, du quotidien, son petit café du matin, le petit chablis à l'apéro. Tout ça, c'est des moments précieux.
Ouais, il est plus sur le chablis que le diable aux fraises, Hubert. Qui va bien ajouter à cela un homme qui n'hésite pas à citer les grands auteurs.
Moi, je me réjouis, en tous les cas, de ces décisions qui sont l'embellie, comme disait Léon Blum en 36. Et je crois que mardi prochain, bah oui, ça sera vraiment un mardi au soleil.
Allez, vous l'avez, hein, Léon Blum, bien sûr, et le clin d'œil à Claude François, mardi au soleil. Bref, l'éclectisme en bandoulière. Pour tout ça et pour tout le reste, il gagne quand même le mérite d'être connu. Bon, sinon, cette semaine, on a parlé violence policière sur CNews et on a mis le paquet. On a convoqué les meilleurs experts sur le sujet, la crème de la crème.
Mais alors, il n'y a qu'un générique des experts.
Oui, c'est celui-là. D'accord. Mais alors, oubliez les sociologues, les intellectuels, les chercheurs. Non, ils ont trouvé l'invité parfaite.
On a en ligne Véronique Jeunesse. Bonjour Véronique, bonjour. Comédienne. Vous avez évidemment incarné à l'écran le commissaire Lescaut. Ouais. Comment vous le ressentez, vous, de votre côté?
Eh oui, l'expertise, Julie Lescaut sur les violences policières, tout ça est vrai. Bon, bah ok. Sinon, évidemment, impossible de passer à côté de la 378e interview exclusive du professeur Raoult qui, visiblement, n'a pas trop de problèmes de confiance en soi.
Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi, hein, l'élite.
Ouais. Bon, et sinon
Chez les melons, il y a assez de variétés qui vont s'acclimater.
Ah, mais pas de problème d'acclimatation, là. On s'en remet encore un petit coup, allez.
l'évolution naturelle de la maladie.
Non, mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question encore une fois. Écoutez-moi.
Les melons apprécient les sols plutôt riches.
Oui, en revanche, ils apprécient moins les questions, hein, visiblement. Au rayon politique, sinon cette semaine, on a aussi eu droit au sympathique jeu des alliances de l'entre-deux-tours des municipales, avec ces rapprochements qui ont surpris entre LR et LREM, entre En Marche et Les Républicains. Enfin, ça a surpris beaucoup de monde, mais pas Ségolène Royal, qui a une explication. Oui, c'est l'analyse de fond de la semaine.
Il y a quand même une certaine logique de rassemblement entre La République En Marche et LR. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans La République En Marche, il y a LR aussi.
Ah, pas bête ça, hein. LR, LRV, tout s'explique. Enfin, dans son billet retour tout à l'heure, Brice vous parlera du Brexit. Justement, le sport a commencé à se déconfiner outre-Manche cette semaine. Mais alors, est-ce que vous avez idée de la première compétition officielle qui a repris? Eh bien, c'était ça. Ça, c'est un pigeon. Oui, lundi dernier, à 10h du matin, le premier sport à avoir repris en Grande-Bretagne, c'est la Coupe du monde de course de pigeons. Mais oublie le foot, le rugby, tout ça. Les membres de la Barnsley Federation of Racing Pigeons.
De là ?
Barnsley Federation of Racing Pigeons ont donné le coup d'envoi à une course de 140 km entre 4000 pigeons. Alors c'est sûr qu'à entendre des trucs comme ça, on se dit qu'avec les Anglais, c'est bien qu'on se sépare à un moment ou à un autre. Et vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine, le surfeur Cyprien Sini, vous avez séché les cours d'anglais, vous. Hein, au
pigeons. Non, je prenais un accent volontairement pour que tout le monde comprenne.
C'est un choix, il est 19h24. Sur RTL. Première grosse info de la soirée, on va s'arrêter sur la vague de violence aux États-Unis.
Ouais, depuis la mort de George Floyd, les États-Unis s'embrasent. Mais au-delà des manifestations, des violences, pour essayer de mieux comprendre pourquoi la situation est explosive à ce point, on a voulu revenir aux origines du mal, aux racines du problème entre noir et blanc aux États-Unis. Et pour ça, Brice, vous avez dû remonter très loin dans le temps.
Oui, en 1640, dans l'État de Virginie. Alors à l'époque, les Noirs, les Africains qui arrivent par bateau, convoyés par les Portugais, ne sont pas encore considérés comme des esclaves. En fait, ce sont des travailleurs pauvres. C'est une main-d'œuvre bon marché, mais au même titre que des Européens qui viennent travailler dans les grandes exploitations agricoles américaines. Alors, ils ne sont pas très bien traités. En 1640, un noir et deux blancs tentent de s'enfuir de l'une de ces exploitations dans laquelle ils travaillent dur. Et c'est là, à ce moment-là, que va naître l'idée, le principe de l'esclavage. Cécile Coquet nous le raconte, elle est professeure de civilisation américaine à l'Université de Versailles.
Le début du deux poids deux mesures, c'est en juillet 1640, après s'être échappé, trois travailleurs engagés sont rattrapés. Les deux blancs, qui sont pour l'un écossais, pour l'autre hollandais, sont condamnés à 30 coups de fouet et un an de servitude en plus, après quoi ils seront libérés et ils auront des terres. En revanche, l'Africain, qui s'appelle John Punch, est condamné, comme les blancs, à 30 coups de fouet, mais il est condamné à devenir esclave pour le restant de son existence.
Voilà, est née l'idée de l'esclave sans droit au service de son propriétaire à vie, le point de départ de la différence.
Et ça, ça va durer jusqu'à la guerre de sécession.
Oui, guerre entre les États du Nord et du Sud qui débute en 1861. Justement, sur ce désaccord profond sur l'esclavage, les États du Nord veulent l'abolition. Ceux du Sud ont une économie qui est basée, qui est fondée sur l'esclavage. Ils sont donc favorables à son maintien. Mais les 13 États du Sud perdent la guerre. L'abolition de l'esclavage est inscrite dans la Constitution en 1865. Alors, cette guerre civile laisse des traces encore aujourd'hui indélébiles.
C'est effectivement une guerre qui n'est pas vraiment digérée. Du point de vue des sudistes, la Confédération, donc leur État sécessionniste, fondé vraiment sur l'esclavage, sur la préservation d'une culture qui, à leurs yeux, est vraiment unique. Pour les sudistes, encore à notre époque, dans un grand nombre de familles conservatrices, ils considèrent que cette victoire du Nord est une victoire injuste. Ça se ressent extrêmement fort. J'étais très surprise en assistant à un cours d'histoire de voir dans les débats une jeune fille qui crachait littéralement sa haine sur le président Lincoln. Ça faisait un bout de temps que Lincoln était mort puisqu'il a été assassiné en avril 1865.
Le président Lincoln, qui était le président favorable à l'abolition et qui a été assassiné par un sudiste.
Donc Brice, la guerre de sécession sonne la fin de l'esclavage mais pas le début de l'égalité. Hein.
Mais non, hors de question pour les Blancs de considérer les Noirs américains qui pourtant obtiennent quelques années après le droit de vote, mais ils ne veulent pas les considérer comme des citoyens à part entière, alors ils vont trouver un autre moyen.
Ce qui va être fait par les politiciens blancs dans le Sud, ça va être de remplacer l'esclavage par la ségrégation. Maintenant, les hommes noirs, qui avant étaient juste des outils de production, deviennent des concurrents puisqu'ils ont le droit de vote et qu'il faut pouvoir préserver la place des blancs. Donc, il y a toute une campagne pour présenter les hommes noirs comme des animaux qui n'ont qu'une seule obsession, vouloir violer des femmes blanches.
ne pas se mélanger, ne pas se fréquenter. Et même dans les États du Nord, les Noirs n'ont pas le droit aux mêmes emplois et aux mêmes chances. Et cela va s'ancrer dans les esprits. Et comme l'explique Cécile Coquet, la construction de la société américaine va se faire justement sur cette domination.
C'est la conséquence du fait qu'il ne faut surtout pas vivre ensemble. Certains quartiers vont être en quelque sorte des zones de relégation pour les pauvres. Et les Noirs étaient vus comme ceux à qui on pouvait donner les salaires les plus bas. Et par conséquent, il fallait s'en éloigner, comme si la pauvreté qui leur était imposée par les lois était contagieuse en quelque sorte.
Et aujourd'hui, ça se retrouve évidemment partout dans le pays, dans les chiffres du chômage, les écarts de salaire, le logement, encore l'accès à la santé.
Et ce racisme, du coup, il est institutionnalisé, il est ancré dans la société ?
Mais suffisamment, en tout cas, pour que les parents noirs américains alertent leurs enfants. Ça s'appelle « the talk », la discussion, la conversation. Lorsqu'un enfant noir américain arrive en âge de se promener tout seul dans la rue, eh bien ses parents ont une discussion avec lui pour lui apprendre comment se comporter face à un policier, parce que cela représente un risque. Et Cécile Coquet, que vous avez entendu depuis le début, elle a vécu aux États-Unis, ses enfants y sont métis, et elle a eu avec eux cette discussion.
C'est une série de conseils sur la manière de rassurer toutes les personnes blanches. Donc vous leur apprenez à toujours être extrêmement poli avec les policiers, même si les policiers les prennent à partie. Veillez à ne pas avoir de lunettes de soleil, par exemple, de façon à ce que le policier puisse voir ses yeux. Toujours mettre les mains bien en évidence. Surtout pas de main dans les poches, et prévenir d'une voix douce l'agent de police de ce que vous allez faire de vos mains.
Voilà, des conseils pour éviter qu'un policier se sente agressé et pense que le geste que vous êtes en train de faire, c'est pour chercher une arme ou pour fuir, et qu'il se sente en situation de légitime défense.
Voilà, explication historique de cette vague de violence et situation aux États-Unis. Première grosse info de ce soir. Première info pour briller au dîner, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. .com.
RTL Soir, jusqu'à 20h, l'info pour briller au dîner.
Il y en a trois d'ici 20h, vous connaissez la maison, la musique, et je vous préviens, il y a un président du jury assez exceptionnel en ce vendredi soir. Je ne veux pas vous mettre la pression les amis, mais quand même, il est à l'écoute, il vient de m'envoyer un SMS. Vous nous parlez Céline, aujourd'hui, défilé.
Oui, parce qu'on l'a appris hier, l'armée sera privée de défilé du 14 juillet cet été. Crise sanitaire oblige. Les légionnaires ne descendront donc pas les Champs-Élysées pour clore le cortège. Car oui, ce sont toujours eux les derniers à défiler. Savez-vous pourquoi ?
Eh ben non.
Ben non.
Ben non, donc je vais vous le dire. Parce qu'ils marchent moins vite. 88 pas à la minute, très précisément. C'est 120 pour les autres. Les légionnaires marchent au rythme de ce chant très célèbre.
Tiens, voilà des Bouddhas. Voilà des Bouddhas.
Et un pas pour les Belges, non ?
Alors, c'est un petit raccourci des paroles. Bon, d'abord, dans l'ordre, le boudin, là, on parle pas de charcuterie, du paquetage plutôt des légionnaires qui étaient serrés comme un boudin. Et s'ils marchent si lentement, c'est parce qu'ils ont gardé la cadence de déplacement des armées de l'Ancien Régime et de l'Empire. Vous parliez des Belges, Cyprien, parce qu'il en est question dans cette chanson. Voilà. C'est pas très... poli d'ailleurs, on dit pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus, ce sont des tireurs au cul. Ouais. En fait, ça vient de la guerre contre la Prusse en 1870. Non mais c'est très
elle est impiégeable.
Mais c'est encore un exposé. Vous vous inspirez.
L'info,
c'est qu'ils marchent plus lentement que les autres. Non mais pardon. C'est,
voilà, les étrangers étaient en guerre avec contre la Prusse, avec la France. Le roi Belges a demandé aux Belges de ne pas participer à cette guerre. L'État français a accepté et donc les Belges se sont fait attaquer sur ce champ.
Il est nouveau ce chronomètre.
Il est nouveau aussi. Ouais.
Il est bien.
Ouais. Mais c'était trop long. C'était bien, mais c'était trop long.
C'est vrai, c'est de ma faute.
C'était la première info pour envoyer au dîner ce soir avec
Céline. C'est vraiment trop injuste.
La deuxième grosse info, les amis, il est 19h34 déjà, ça concerne le tourisme de demain.
Oui, pendant tout le confinement, vous avez rêvé de vous évader, vous avez pensé vacances, mais le coronavirus chamboule tout, plus le droit de se regrouper, même dans les hôtels resorts et les clubs de vacances, fini le collet serré devant le buffet au petit déjeuner. L'épidémie va-t-elle mettre fin au tourisme de masse ? Laurent, vous avez enquêté.
Alors, il y a un chiffre qui nous interpelle, il est sorti cette semaine, 54% des Français craignent d'être contaminés sur des lieux de vacances trop fréquentés, selon une enquête menée par VVF Village. Cette crainte, c'est une préoccupation majeure. Certains ne veulent pas se retrouver mélangés dans la foule et des petits espaces. Et on voit en ce moment, dans les réservations, une demande de consommer local, d'un retour à la nature, de vacances responsables. Un exemple, dans le sud de la France, Françoise Dumont est présidente de Var Tourisme.
Les demandes aujourd'hui sont des demandes de réservation avec un engouement certain pour le Moyen et le Haut-Var, et en particulier la zone du Verdon, qui est une grande zone de nature verte et qui est propice d'ailleurs à un retour aux vraies valeurs et à un retour aux sources.
Et du coup, alors, est-ce qu'il s'adapte à cette nouvelle forme de tourisme ?
Alors déjà, il ne s'agit pas de réinventer tout un département, mais dans le Var, par exemple, on est en train de prendre un virage, celui de favoriser le tourisme durable. Des investissements doivent être réalisés pour s'adapter à cette nouvelle demande. Proposer, par exemple, des hébergements verts, insolites, mais ça passe aussi par des transports éco-responsables.
Il faut faciliter le déplacement à vélo, les déplacements doux. Il faut faciliter aussi, pourquoi pas, le transport maritime à hydrogène. On est un grand département maritime, donc forcément, les déplacements maritimes sont importants.
Mais ce tourisme, Laurent, il peut être rentable ?
Alors, c'est là où vraiment toute la stratégie change et que l'on s'éloigne du tourisme de masse. Des départements vont jouer une nouvelle carte, la carte du tourisme des quatre saisons. Jusque-là, on se concentrait à aller sur trois mois de l'année, principalement l'été. Là, on va se réinventer.
Dans le département du Var, on fait du tourisme et on peut venir dans le département au mois de février, au mois d'avril, au mois de mai. Et on fait un développement sur ce qu'on appelle les ailes de saison, un développement sur le tourisme des quatre saisons, qui sera propice aussi à la découverte de la ruralité, à la découverte de nos grands espaces, et qu'on n'a plus forcément besoin de vivre le soleil entre le 15 juillet et le 15 août.
Ouais, mais les départements français ne sont pas les seuls à prendre ce virage. Ailleurs aussi, chez nos voisins européens, certaines villes ont déjà pris les devants pour diminuer le tourisme de masse. Si on prend l'exemple de Venise, qui réfléchit en ce moment même à sa transformation, chaque année, on compte 30 millions de touristes, elle a été vidée de ses visiteurs étrangers avec la crise du Covid-19, et plusieurs associations militent en faveur d'un changement de cap. Une pétition en ligne a été lancée pour mieux encadrer notamment les habitations, revoir les politiques de logement, investir pour créer de l'emploi, faire revenir les Vénitiens. La priorité est donnée actuellement aux locations touristiques et d'autres villes suivent aussi le même chemin. Didier Arino est le directeur général de ProTourisme.
Il y a un certain nombre de villes qui se sont réinventées. C'est le cas en Italie des Cinque Terre où vous ne pouvez accéder à la destination que en payant pour accéder à la destination. Et ensuite, si vous n'avez pas d'hébergement touristique, vous avez l'obligation de repartir le soir. C'est aussi Dubrovnik qui a limité la fréquentation de la ville en instantané.
Ouais, c'est comme il y en a d'autres, il y a Porquerolles aussi par exemple dans le sud, si vous n'avez pas d'hôtel, vous ne pouvez pas rester.
Et alors ce nouveau mode de tourisme, il peut durer ou pas? Il est durable?
Et il faut être très clair, le tourisme de masse touche très peu la France, ce sont plus souvent les destinations étrangères. Notre pays souffre plutôt d'un sous-tourisme sur 80% de son territoire. Et de toute façon, un retour à la nature, plus isolé, des vacances plus éloignées les uns des autres, plus responsables, c'est bien sur le papier, mais pas sûr que ça dure pour Didier Arino.
Ça, c'est bien beau quand on est bien nourri, qu'on est suffisamment riche pour pouvoir faire d'autres choix. En revanche, pour ceux qui partent très peu en vacances, vous savez, ceux-là, l'hôtel club avec tous les services, le fait de pouvoir être servi, de pouvoir accéder à des destinations abordables, ils ne le perçoivent pas forcément de la même façon que ceux qui passent leur temps à donner des leçons.
Et pour cet été, 9 Français sur 10 choisissent la France pour leurs vacances. Priorité
RTL Soir jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième en ce vendredi soir. Céline, tout à l'heure, nous parlait du défilé du 14 juillet. C'est au tour de Brice, du génie, de retourner aux États-Unis.
Absolument. En 1960, cette fois-ci à Louisville, dans le Kentucky. Louisville, c'est la ville natale du boxeur Mohamed Ali. En 1960, il revient à Louisville avec autour du cou la médaille d'or qu'il a gagnée au JO de Rome. Sauf que de retour, il s'assoit à la terrasse d'une cafétéria. Le serveur vient le voir et lui dit que les Noirs, même avec une médaille d'or, ne sont pas les bienvenus dans son établissement. De rage d'avoir remporté cette médaille pour un pays qui ne lui reconnaît même pas le droit d'être servi dans un restaurant, eh bien Mohamed Ali saisit sa médaille et la jette de colère dans le fleuve Ohio qui traverse la ville. 36 ans plus tard, à Atlanta, au cours des JO organisés donc aux États-Unis, le comité olympique restituera à Mohamed Ali sa médaille, la même qu'au JO de Rome en 1960.
Voilà une belle info pour vous voyez, c'est pas mal ça. Hein,
vous savez comment il est content ?
Ah, il est content.
Ils appliquent et tout, ils passent une semaine là-dessus.
Ils le sont bien.
C'est ce qu'on appelle du travail, Cyprien.
Le président du jury exceptionnel ce soir est à l'écoute, bien sûr, jusqu'à 20h.
RTL. Le loser de la semaine.
Le grand perdant de la semaine. Et cette semaine, Céline, qui ne perd jamais une occasion de traquer la moindre faute de car.
La moindre.
Oui, la moindre.
Non, bien sûr.
Oui, bah ouais. Vous vous offrez deux losers hein, pour le prix d'un. C'est un coup double.
Oui, des mauvais perdants, même cette semaine. Direction Levallois-Perret avec le couple Balkany, Isabelle et Patrick, condamnés à de la prison ferme en appel pour blanchiment de fraude fiscale. Ce couple, donc, il n'a pas pu se présenter au municipal, mais qui ne cesse de clamer son amour pour Levallois-Perret.
Nous avons consacré notre vie à cette ville.
Ça fait 36 ans que je suis maire maintenant, depuis 83. C'est ma vie.
Il y a ici, à Levallois, comment vous dire, une histoire d'affection, d'amour, de tendresse, qui est rare.
Un amour si fort qu'il les aurait poussés à demander à être embauchés par la mairie, comme le raconte à Marie Mollet la candidate Agnès Potier-Dumas.
Patrick Balkany m'a convoqué dans son bureau pour me dire « Vous avez 15 minutes pour me signer une lettre dans laquelle vous vous engagez à m'embaucher moi à la SEM et Isabelle à la COM ». Je lui ai dit « Écoutez, monsieur le maire, j'en suis désolée, mais ce sera non et ce sera toujours non. » Et je suis partie.
Divorce consommé entre les deux parties, même si Patrick et Isabelle Balkany démontent aujourd'hui toute pression, ils règlent leur compte sur les réseaux sociaux. Patrick Balkany a par exemple souhaité un bon anniversaire à Agnès Potier-Dumas en lui proposant de lui offrir un aller simple pour Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, où, dit-il, elle se plaira énormément. Là, c'est sa fille qui l'a recadré, car la guerre est aussi déclarée avec les enfants Balkany qui continuent de soutenir Agnès Potier-Dumas. Pas sûr qu'ils passent la fête des mères ensemble dimanche. Isabelle Balkany reproche à sa fille publiquement de ne pas lui avoir adressé la parole pendant le confinement à la sortie de l'hôpital et de passer son temps à hurler sur ses propres enfants. Heureusement, le message se termine quand même par un bisou. Malgré tout, les barons de Levallois n'ont pas dit leur dernier mot. Isabelle Balkany me disait tout à l'heure qu'ils prendront la parole à 3 jours du second tour, histoire de peser quand même de tout leur poids sur le scrutin.
Ouais, de bien plomber leur candidate.
En attendant, ils vont toujours dans leur fief. Mardi, par exemple, Isabelle Balkany postait sur Instagram une photo du couple en terrasse avec de vrais amis levalloisien, c'est ce qu'elle mettait en légende. Oh. Sauf que les amis, ils étaient 9 et qu'avec le couple, ça faisait 11.
Ah,
je vous rappelle voilà, que les tables de plus de 10 personnes sont toujours interdites et que les internautes l'ont remarqué. Décidément, ils ont du mal avec les règles.
Voilà, le couple Balkany qui décroche le titre de loser en ce vendredi.
Pourquoi les légionnaires sont-ils associés au boudin? A. Parce qu'ils adorent manger du boudin, évidemment. B. Parce que pour devenir légionnaire, il faut connaître la recette du boudin aux pommes. Ou C. Parce que leur
chocolat.
On défait le monde sur RTL.
8h moins le quart, c'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle quasiment plus. Et cette semaine, c'est le Brexit.
Oui, souvenez-vous, c'était pendant la soirée du 31 janvier au 1er février. Le Parlement britannique entérinait la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Vous y étiez, hein, d'ailleurs, Brice. 3, 2,
1. 23h, heure de Londres. Au son des cloches, trois mots s'affichent sur l'écran géant. We are out, nous sommes sortis.
Ouais, vous étiez bien triste. Hein. Hein. Ouais, il était pas bien.
Bah, c'est le Brexit. Allez-y, hein. Y a aucun problème.
Bon, alors, devons s'ouvrir une phase de négociation sur tout plein de points très précis avec une échéance le 31 décembre prochain. Alors, en 4 mois, Brice, comment elle avance les négociations? Parce que l'horloge de Big Ben continue de tourner et à mon avis, le coronavirus, ça n'a pas dû aider. Hein.
Mais non, puisque les négociations ont été suspendues pendant 6 semaines parce que les deux négociateurs en chef, Michel Barnier pour l'Europe, Davis Frost pour le Royaume-Uni, ont contracté la maladie. Puis ça a été le tour de Boris Johnson lui-même. Donc les négociations ont repris le 20 avril et le problème, eh bien, c'est qu'elles n'avancent pas. Mais alors, pas du tout. Écoutez Michel Barnier aujourd'hui en début d'après-midi.
En tant que négociateur de l'Union, ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu cette semaine de progrès significatif. Nous n'avons réalisé aucun progrès. Nous ne demandons rien d'autre que le respect de la déclaration politique. Et je pense que nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça.
Voilà, un peu énervé, Michel Barnier. Quelques minutes après, il se permet même en anglais de tenser les partenaires britanniques. Il brandit un document qui définit donc ses règles de négociation et voilà ce qu'il dit.
This document is available in all languages.
Traduction, ce document, il est disponible en anglais, il n'est pas difficile à lire et c'est un accord trouvé avec le Premier ministre Boris Johnson, une manière de dire aux Britanniques, eh ben, ce serait bien de respecter votre engagement parce que le calendrier arrêté n'était déjà pas très large mais là ça devient quasiment impossible de s'entendre avant la fin de l'année.
Donc là, ça veut dire qu'on va vers le fameux no deal.
Oui, la menace de ce no deal ressurgit. C'est pour cette raison que Bruxelles a proposé à Londres une nouvelle extension de cette période transitoire de négociation pour trouver un meilleur accord. Alors, 1 ou 2 ans, le temps de discuter. Réponse de Boris Johnson, no, Londres veut sortir à la fin de l'année. Donc au moment que je vous parle, la situation est totalement bloquée.
Et la crise sanitaire, Brice, elle n'a pas fait changer d'avis les Britanniques sur leur projet de sortie de l'Union?
Dans la tête de Boris Johnson, rien n'a changé. On pouvait penser que dans la tempête sanitaire, il se rapproche un peu de l'Union européenne, mais au contraire, même en pleine pandémie, il a marqué sa différence. D'abord, il a refusé le confinement, il en a même ironisé au départ, jouant, vous savez, la carte de l'exception britannique. Et puis, il est tombé malade et derrière, il a dû se rendre à l'évidence, il fallait ordonner le confinement. Puis le Royaume-Uni n'a pas voulu se joindre à un appel d'offres pour obtenir du matériel sanitaire, ce qui n'a pas été très bien vu par les autres pays européens. Et puis, le dernier élément, c'est cette quatorzaine que Boris Johnson impose à tous les ressortissants de l'Union qui arrivent au Royaume-Uni. Donc, cela montre quand même que sa volonté de réaliser le Brexit, elle est toujours là.
Alors, lui, il en est convaincu, ok, mais du coup, sa crédibilité, elle a peut-être été un peu atteinte, non, par la façon dont il s'était comporté, notamment au début de la pandémie.
Non. C'est-à-dire que malgré un bilan très élevé au Royaume-Uni, aujourd'hui, les 40 000 morts, la barre des 40 000 morts a été franchie au Royaume-Uni, et bien la cote de popularité de Boris Johnson, elle reste forte à plus de 50% d'opinion favorable. Mais il y a quand même un sondage qui est très intéressant paru dans la presse britannique il y a quelques semaines, dans le Daily Mirror. Près de 70% de la population du Royaume-Uni, donc il y a forcément des partisans du Brexit dans ces 70%, souhaitent un report de cette date du 31 décembre parce qu'ils ont peur d'une double crise économique, une crise économique Covid plus une crise économique Brexit. Et donc, il va peut-être falloir que Boris Johnson compose avec ça dans les semaines qui viennent, qui s'annoncent décisives.
Billet retour très intéressant, Brice, du génie. Dites-moi, Michel Barnier, il parle anglais un petit peu comme...
On a
Il a un peu plus de vocabulaire. C'est vrai qu'il a l'accent et moyen, mais il a plus de vocabulaire.
19h49.
À suivre dans On défait le monde.
La dernière info pour briller, l'instant mignon et le chronomètre.
A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
RTL.gouv.fr.
RTL Soir jusqu'à 20h. L'info pour briller au dîner.
Et j'alerte le président du jury qui est à l'écoute, évidemment, c'est Cyprien qui s'y colle pour la troisième.
Je préfère aller en terrasse plutôt que dîner comme ça. Quoi.
Ça vous ferait plaisir d'aller en terrasse?
Ouais.
Ok.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller en terrasse.
Déjà ces pistons.
Surtout si Cyprien a pas mis le nez dehors, parce qu'il fait quand même pas très chaud ce soir.
Mais j'ai un sweat. Je vous emmène en Isère, dans le village d'Artas, plus précisément. Charmant village de caractère de 1800 habitants. Et ce village a une particularité. C'est l'endroit de France où est né la fête des mères. Et oui, la fête des mères qu'on célébrera dimanche. Eh bien, c'est à Artas, le 10 juin 1906, qu'elle a vu le jour à l'initiative d'un certain Prosper Roche. C'était l'instituteur du village. Le but au départ, c'est juste de célébrer les mères de familles nombreuses. Et donc, du coup, cette année-là, à l'occasion de la première édition, deux mères de 9 enfants ont reçu le prix de, je cite, « au mérite maternel ». Et en même temps, avec 9 enfants, on comprend, c'est plus que mérité. C'est aussi comme ça qu'est née cette fête qui s'est un peu institutionnalisée. Alors, à Artas, on est tellement fiers d'être le berceau de la fête des mères qu'une immense fresque qui représente cette remise des prix du 10 juin 1906 orne un mur à l'entrée du village. Si vous y allez, ratez pas.
Bonne info pour briller au dîner. Cyprien. Il a peut-être ses chances. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas gagné.
C'est surtout que c'est jamais. Pour une fois, c'est court.
En plus, ça a été court.
Ça, c'est appréciable.
19h53.
Oh, mais c'est l'instant trop mignon.
Oh, instant fraîcheur, instant bonheur. L'info positive qui fait du bien et qui va enjoliver ce week-end pluvieux qui s'annonce. Céline, ensoleillez-nous.
Je vous emmène à Rangoon, c'est en Birmanie, Cyprien. À la rencontre de la Cyril Lignac.
C'est en Birmanie, elle précise la géographie pour vous.
À la rencontre donc.
Donc du Cyril Lignac local. En fait, c'est une fille, elle s'appelle Moemin Meintou. Et elle a 8 ans. Grâce à ses vidéos, elle est devenue un petit peu la nouvelle star de la cuisine locale, surnommée même Petite Chef. Là, c'est elle, vous l'entendez. Elle est en train de préparer un de ses plats en pyjama, charlotte sur la tête. Elle explique pas à pas les recettes de plats de crevettes, de curry de poisson, de cuisses de grenouille. Moemin Meintou raconte qu'elle a commencé à cuisiner quand son école a fermé à cause du Covid-19. Maintenant, elle propose des plats sur commande qu'elle livre même parfois en fin de journée. C'est un peu comme si Cyril Lignac venait vous livrer le soir en personne. Bon, la différence, c'est qu'elle va retourner à l'école à la rentrée. En attendant, elle s'est fait une petite renommée. Dans sa vidéo la plus populaire, elle porte un t-shirt motif licorne et elle explique comment réaliser le moingia. C'est une soupe à base de riz et de poisson chat. C'est un plat traditionnel birman. Plus de 200 000 vues quand même.
Ouais, mignon.
Mignonne la petite.
Ouais, mignon.
Comment elle s'appelle déjà?
Elle s'appelle Moemin Meintou.
Bravo.
Ah, c'est formidable, bien joué.
Bonjour, c'est Pascal Pro.
Le Prodomètre.
Vous avez quelque chose à dire? 30 de 10.
Il parle birman, Pascal Pro.
Non, je pense pas. Le baromètre avec Pascal Pro dedans, le palmarès de vos appels au 32-10 cette semaine. À votre avis, quel est le sujet qui a le plus fait appeler?
Bar et restaurant, les réouvertures, non?
Ouais, bien joué. Autre sujet qui a très bien marché.
La manif.
La manif, exactement. Et une question aussi, tous les élèves doivent-ils retourner à l'école? Alors, il y a quelques jours, les avis étaient super partagés, mais cette semaine, quasiment 95%, 100% des appels allaient dans le même sens. Tout le monde à l'école, exemple avec Nathalie, parent d'élève, et Cyril, principal d'un collège.
Moi, je leur fais confiance. Hein. Je fais confiance à la science. Ils sont experts dans leur domaine. S'ils nous disent ça, on peut rouvrir les écoles, avoir un fonctionnement normalisé. Hein.
Je ne comprends pas qu'aller à l'école soit devenu optionnel dans ce pays. Enfin, on peut emmener nos enfants faire les courses, manger des glaces, manger en terrasse, mais ils ne peuvent plus aller apprendre. Mais je pense qu'un protocole compliqué est bien plus facile à faire sauter que de l'installer. Donc je pense qu'à un moment, on peut le faire sauter.
Voilà, vous prenez la parole, c'est du lundi au vendredi, bien sûr avec Pascal Pro. Dès 13h, les appels au 3210, 3210. Le gagnant de ce soir concernant le jeu chocolat,
c'est Laurent de Gironde. On le félicite, on l'embrasse.
Merci d'avoir porté ça à ma connaissance. Inutile de vous dire, je fais tout le quartier là. Je vais vous inviter à tous les apéros, ne serait-ce que pour la raconter.
Bon, on vous retrouve lundi matin sur RTL, 9h30 bien sûr. Et puis Capital dimanche soir ou pas, Julien?
Oui, Capital, dimanche soir, sur tous les produits d'un été pas comme les autres. Donc, la piscine, vous savez que le marché augmente de 300%, les meubles de jardin. Les Français ont envie de passer leur été dans leur propre jardin, ne partiront pas. Donc, il y en a pour qui ça va faire de belles affaires.
C'est un honneur de vous avoir ce soir.
Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup.
Passez un bon week-end, les amis.
Merci, Julien Courbet, bien sûr. Il est 19h57. On vous souhaite le meilleur, les amis, à vendredi prochain.
On embrasse tout le monde.
À la semaine prochaine. Et la 40e.
Vendredi pas, à 40e, mais on tape une surprise.
Ah,
on travaille dessus.
Ça fait
On défait le monde dans RTL Soir.